Je vais maintenant laisser la parole à la foule pour vos questions. Et puis, enfin, à vous, à l'assistance plutôt que la foule. Et il y a trois personnes qui seront bien sûr là pour vous répondre. Oui ?
Merci pour votre exposé. Ça va là, vous m'entendez ou pas ? Oui ?
Pas très bien, plus fort, plus fort.
Ok. Donc j'avais une petite question par rapport, enfin deux questions en réalité. La première, c'était par rapport à Dieu est immanent. Alors je m'adresse à Carole. Dieu est immanent et qu'est-ce qui était dit juste après ? Je l'ai noté. Et inengendré. Hein ? Dieu est immanent et inengendré.
Oui, ça c'est la sourate que
tout
j'ai.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et ça faisait écho par rapport à ce que disait...
C'était le côté transcendant, en fait. Là.
D'accord. Mais en cela, Jésus était différent puisqu'il était engendré. Et ça faisait écho avec ce qu'avait dit Monsieur de Longeau. Donc je voulais savoir si vous vous rejoignez là-dessus ou pas du tout, parce que c'est, voilà, c'était...
Ah oui, je réponds tout de suite ou on prend une série de questions ?
Par rapport au fait que vous disiez...
Peut-être répondre tout de suite, oui.
Oui, alors par rapport à ce que j'ai dit, j'ai bien dit Dieu n'a pas été engendré. Je n'ai pas dit Jésus. Hein. Voilà, donc peut-être le Père... Je compléterai ce que le...
Pour un chrétien, Dieu est inengendré, hein. C'est le Père, hein. Il est inengendré. Il engendre de toute éternité son Verbe, sa parole, qui l'exprime parfaitement, celui que nous appelons le Verbe ou le Fils. Après, nos mots, vous voyez, le mot engendrement, évidemment, ne doit pas être compris à manière humaine. Hein. Ce n'est pas un engendrement, mais ça veut dire que de toute éternité, enfin, pour l'expliquer, Dieu se connaît et s'aime lui-même, quoi. On n'ose pas parler de Dieu comme ça, mais c'est un petit peu ça. De toute éternité, il engendre un Verbe, une parole qu'il exprime parfaitement. Et il s'aime lui-même, et c'est dans cet amour que le monde prend place. Donc, dans une perspective chrétienne, Dieu est à la fois transcendant, il est le tout autre, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, il est le tout proche, c'est-à-dire qu'il est effectivement, comme a dit Carole, il est présent dans le monde, en toutes choses, et en même temps, il est le tout autre. Hein. Il faut toujours tenir deux choses apparemment contradictoires ensemble dès qu'on parle de Dieu. Voilà.
On ne vous a pas entendu.
C'était plus par rapport au lien avec Jésus.
Oui, je voulais vous demander... en fait, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse, cette question, mais j'étais à la conférence sur Moïse à l'Institut Elie Wiesel, et j'aimerais savoir comment vous vous situez les uns et les autres, finalement, sur la question de la différence entre Moïse et Jésus. Si on peut...
Alors, je sais pas, peut-être.
Alors, du point de vue du judaïsme, il est dit de Moïse que Dieu lui parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Et dans la tradition juive, Moïse est placé au sommet des prophètes. Et Jésus, disant lui-même au début du sermon sur la montagne, qui n'est pas venu abolir même un iota. Donc il a dit en hébreu un yud, voilà, de la Torah. Hein. Et dans l'épisode justement des premiers miracles de Jésus, juste après le serment sur la montagne, en disant va vers le prêtre, on pourrait dire que Jésus reconnaît l'autorité de Moïse dans la mesure où la loi, c'est pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu. Voilà. Mais en même temps, Jésus donne un éclairage hein, sur cette Torah. C'est-à-dire que le rituel Je ne suis pas sûr qu'il veuille abolir le rituel. Je ne suis pas sûr que même en disant ce qui est important, c'est ce qui sort et pas ce qui rentre, que pour autant Jésus ait mangé non cachère. Je crois que c'est... Mais je crois que simplement, il a voulu éclairer d'abord ses contemporains et l'humanité dans l'esprit du monothéisme éthique, à savoir que si nous ne mettons pas le cœur, l'amour dans notre rituel, dans notre gestuel, dans notre manière d'être, et bien sûr au sein de la communauté d'Israël dans laquelle il est né, c'est-à-dire c'est le mystère que Dieu ait fait d'être Jésus en Israël. Ce n'est pas un Égyptien, ce n'est pas un Cananéen, ce n'est pas un Assyrien, un Babylonien, c'est un Hébreu, un Judéen. Donc je pense que Jésus apporte un éclairage de la Torah de Moïse, qui est elle-même parole du Dieu vivant, révélée. Voilà, je crois que c'est comme ça que la hiérarchie, enfin, du point de vue du judaïsme, on placerait Moïse et Jésus en dessous.
Jacques, bonjour. Oui, donc je rejoins tout à fait ce que dit Philippe Haddad. Le fait important, c'est que le christianisme a conservé ce que nous appelons le Premier Testament. On a appelé souvent longtemps l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Et donc, un chrétien va lire les livres de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, la Torah. Pour nous, ça reste un texte de référence. Donc, Philippe Alab a cité justement cette parole de Jésus, « Je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas enlevé à un yud ou même un point sur le yud, parce que c'est que le point sur le yud, mais accomplir. » Et donc, il y a cette idée, alors c'est là où la loi donnée par Dieu à Israël par l'intermédiaire de Moïse, appelle un accomplissement. Voilà. Et cet accomplissement, d'après les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, c'est que la loi de Dieu ne soit plus simplement une loi extérieure, mais qu'elle soit inscrite dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur de l'homme que nous faisons la volonté de Dieu. Et par ailleurs, Jésus a dit que l'ensemble des commandements de la loi trouvaient leur cœur, leur centre, dans le double commandement qui est dans la Torah, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, que ces deux commandements-là résument la loi. Et effectivement, il y a aussi une polémique contre les pharisiens, en disant, attention, de ne pas substituer la tradition des pères au commandement de Dieu, en disant, regardez, vous rentrez dans telle ou telle casuistique qui fait que finalement, au bout du compte, vous dispensez d'honorer votre père et votre mère. Donc il reprend au fond le décalogue et en disant attention, et d'ailleurs ça vaut pour l'Église aujourd'hui, je pense que je crois très fortement que dans le Nouveau Testament, les critiques de Jésus envers les pharisiens sont des critiques que les prêtres, les clercs dans l'Église peuvent se prendre tout au long de l'histoire. Ce n'est pas simplement les pharisiens d'il y a 2000 ans. Il y a toujours ce risque de vouloir... se dispenser du commandement de Dieu essentiel, et cela par des tas de règles, voilà, c'est un petit peu et se dispenser de l'essentiel qui est l'amour, la miséricorde et la justice. Oui. Merci.
Vous voulez ? Oui, bah, rapidement. Alors, je ne sais pas si on peut parler, moi je ne parlerai pas de différence, mais comme nous l'avons vu et avec le père et le rabbin, ils sont complémentaires. Un peu comme la lettre et l'esprit. Donc, en tout cas, en islam, les deux sont et prophètes et envoyés. Voilà. Donc, plutôt, je verrai le commun. Après, pour citer Jalaleddin Rumi, le début de son Mesnevi commence par « écoute ». Et dans le Coran, c'est ce que Dieu dit à Moïse, écoute. Alors, est-ce qu'il y en a un qui écoute et puis l'autre qui est plus le verbe ? Je n'en sais rien. À vous de méditer. Et ben, je vous remercie tous les deux, finalement, de préciser que le fait de devoir mettre le cœur du cœur dans nos actes, parce que c'est finalement le message... du prophète prochain, qui est Mohammed, qui est un humain, et un humain qui a justement insisté sur le bel agir, sur le... c'est un mot à la mode, mais sur le bien vivre ensemble. Donc, finalement, les enseignements et de Moïse et de Jésus se retrouvent dans l'enseignement du prophète Mohammed. Il fait de mettre le cœur dans chacun de nos actes, de mettre aussi la beauté dans chacun de nos actes. Voilà. En plus de la loi, du respect de la loi.
Y a-t-il d'autres questions, monsieur ?
Donc, il y a une question pour madame Amir.
Alors, c'est moi ?
Oui, une question pour madame Amir. Donc, vous avez commencé votre exposé en parlant de la conception de Marie. Voilà, Dieu qui a mis son souffle en Marie. Donc, j'aimerais savoir, parce que je ne connais pas dans l'islam, la conception de Jésus, est-ce qu'elle a été aussi faite d'une façon miraculeuse, sans que Marie ait connu un homme? Et si oui, est-ce que c'est unique dans le Coran? Et si oui encore, quelle est donc dans le Coran ou chez l'islam la nature de Jésus dans ces cas-là?
Ah, c'est bien parce que finalement, j'avais fait l'impasse, comme je pensais être trop longue. Donc, en effet, Jésus est dans le Coran. En fait, on reprend le fait que Jésus est constitué du souffle de Dieu, transmis par l'ange Gabriel, et qu'elle n'a pas connu d'homme. Donc, vous pouvez retrouver cela dans plusieurs sourates, et notamment dans la sourate qui porte le nom de Marie, qui est consacrée à Marie, qui est la sourate 19. Et donc, lorsqu'elle reçoit l'ange Gabriel, qui est sous la forme en fait d'un homme parfait, Marie lui dit : je cherche une protection contre toi. Et je me réfugie auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Dieu. Donc il, l'ange Gabriel, lui dit, « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils pur. »« Comment aurais-je un fils ? » répondit-elle. « Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne suis pas dissolu. » C'est-à-dire, je n'ai pas une vie dissolue. Donc l'ange dit, « Il en sera ainsi. » Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour moi. Ton enfant sera notre signe pour les hommes et la preuve de notre miséricorde. Le décret est irrévocable. Donc Marie tombe enceinte et se retire dans un lieu éloigné. Et puis elle accouche près d'un palmier. Et Marie dit à ce moment-là, « Malheur à moi, que je sois morte avant cet instant et que je sois totalement oubliée. » Alors l'enfant qui se trouvait à ses pieds, qui est Jésus, l'interpelle. C'est pour ça que tout à l'heure, parmi les miracles cités dans le Coran, Jésus parle... on a dit comme un vieux, mais Jésus parle à sa naissance et il rassure sa mère. Il lui dit, ne t'attriste pas, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera alors tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc au moment où Marie accouche près du palmier, elle a de quoi boire et manger. Et donc son fils lui dit, mange, bois, et que ton œil se réjouisse. Bon, je suis désolée, j'en mets un peu plus, mais finalement, vous voyez, tout est en lien. Parce que je prends, en fait, non pas du Coran, parce que je ne l'ai pas pris avec moi, mais je prends cela dans Jésus, dans la tradition soufie, de Fawzi Skali, si vous voulez le lire, chez Albin Michel. Et Fawzi Skali, la personne qui m'a appelée juste avant de venir. Vous voyez ? Donc, tout est en lien. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit ? Donc, de manger, de boire. Lorsque tu rencontreras quelqu'un, dis-lui, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, ensuite, Marie se rend auprès des siens. Et donc, sa famille lui dit, « Oh, Mariam, oh, Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pourtant pas une prostituée. » Alors, elle fit un signe vers le nouveau-né et sa famille lui dit, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais celui-ci dit, donc Jésus dit, c'est ça aussi les miracles que cite le Coran, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. » Comme ça, ça répond aussi sur la nature de Jésus, en tout cas dans le Coran. « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » Donc ça rejoint ce qu'on a dit.
Merci beaucoup, mais il y a d'autres questions. Hein.
Donc Coran, toujours la même sourate, 19 et versets 23-24.
Merci beaucoup.
Il y a une question ici.
D'autres questions, s'il vous plaît.
Il faut m'interrompre, hein, parce que...
Oui, j'en ai une.
N'hésitez pas. Parce que c'est un manque aussi d'élégance d'être trop longue.
Mais c'est un manque d'élégance d'interrompre le Coran.
Rappelez-moi les bonnes manières.
Alors... Est-ce que le Christ, dans sa vie terrestre, avait conscience qu'il était Dieu ?
Non, honnêtement, ça n'a pas de sens de penser que Jésus s'est dit « je suis Dieu, je suis Dieu ». Ça n'a vraiment pas de sens. Jésus était l'homme qui était tout entier tourné vers celui qu'il appelait son Père. Voilà. Voilà. Il ne s'est pas pris pour un Dieu qui se promenait sur Terre, certainement pas. Voilà.
Je voulais remercier tous les intervenants et revenir un peu sur le fondement de ce qu'a fait notre ami Amir. Amir, en fin de compte, elle s'est basée sur un texte très compliqué, même pour nous les musulmans, qui s'appelle « Les conquêtes mécoises » de Mouhaddin Arabi. Et si vous voulez, « Les conquêtes mécoises », c'est un texte très controversé qui ne s'inscrit pas, si vous voulez, dans la logique de l'historicité de la science ou des sciences des causes de la révélation, que c'est une science à part des sciences coraniques, et pour la maîtrise de ces textes, il faut passer par ce point. Donc, Sbab Nuzul, qui est une science à part dans les sciences coraniques que nous enseignons à nos élèves futurs imams, c'est le contextuel, en fin de compte, qui va primer sur le sens même du verbe. Nous nous sommes très attachés. Le rabbin Philippe Haddad parlait de l'attachement du verbe pour les rabbins et pour la religion juive. Nous sommes très attachés. Nous connaissons parfaitement par cœur. Un imam qui se respecte doit connaître par cœur les 6247 versets. Le respect de la récitation, qui a 10 manières de réciter, est aussi une manière d'appréhender la compréhension de ces textes. Notre ami Amir a survolé un siècle très important dans notre histoire qui s'appelle les premiers traditionnalistes et les premiers rationalistes de la pensée du texte coranique qui a fait un grand débat. Et à un moment donné, il y avait une clôture de ce débat sur le sens étymologique de certains versets parce qu'il faut voir aussi l'effort des imams. Elle a pris une partie qui est ésotérique. Cette partie-là, elle a cité, et non des moindres, non seulement les conquêtes mécoises, mais aussi un travail important de Massignon quand il a fait la référence de l'Hallesh. Ça, c'est le côté ésotérique. Ça me rappelle, pour schématiser, pour vous donner un exemple de ce que nous enseignons, C'est comme cet grand imam qui s'appelle l'imam Shafi'i, qui est l'une des écoles fondamentales du sunnisme. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails entre le sunnisme et le chiisme. Il n'y a pas de grande différence. En vérité, ils sont d'accord qu'il y a un seul courant, ils sont d'accord qu'il y a une seule tradition, mais ça peut différer sur le pouvoir de l'homme. Et c'est cet imam-là qui donnait un cours dans une grande mosquée. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, monsieur ou cher, maître, si quelqu'un commet un crime, est-ce que Dieu peut le pardonner? Et le cher répond, oui, Dieu peut le pardonner. Quelques mois plus tard, un monsieur vient interrompre le cours de ce grand savant, qui s'appelle l'imam Shafi'i, qui a été l'initiateur de l'esprit par déduction, et lui dit, si quelqu'un peut commettre un crime, est-ce que Dieu le pardonne? Et l'imam ou le maître répond, non, Dieu ne peut pas le pardonner. Alors les élèves disent, monsieur, maître, vous avez donné deux réponses à la même question, deux réponses contradictoires à la même question. Elle dit, ça, c'est l'apparent de la question. Celui qui est venu en premier, c'est vrai, Dieu le pardonnait, parce qu'il a déjà commis le crime, et Dieu est pardonneur. Mais le deuxième, il est venu s'autoriser pour commettre le crime, et je l'ai arrêté. Donc, le rôle de l'imam, c'est d'avertir et de faire comprendre l'explication, le contextuel de le texte coranique pour nous. J'ai beaucoup aimé cette humanisation du verbe qui échappe aux théologiens, car si nous donnons la parole à un théologien, il va certainement donner un autre exposé de ce qu'a donné Carole. Par contre, ce qui a été dit n'est pas dévié du texte fondateur. Pour nous, Jésus est un prophète. Jésus n'a pas été engendré. Là, nous rejoignons nos amis chrétiens dans ce qu'on appelle la conception immaculée ou immaculée conception. C'est un, je ne veux pas citer tous les sourates, mais la cité le plus important, le 46 de la sourate Al-Ma'ida et le 44 là. Survolez le verset 44 qui dit « Et nous avons envoyé à Moïse la Torah dans laquelle se trouve une direction, une lumière. » Et dans le verset qu'elle vient de citer, 46, elle dit, c'est vrai, « Et nous avons envoyé par la suite à Jésus l'évangile au singulier. » Excusez-moi, mais c'est dans le texte coranique dans lequel se trouve une direction et une lumière. L'avantage pour nous, ce que nous considérons Jésus comme le sauveur. Et nous attendons son retour. Je ne veux pas prendre la parole plus longtemps que cela, mais je trouve que Carole Émir, elle a survolé un texte très compliqué pour nous, les musulmans, qui s'appelle les conquêtes.
Il y a peut-être d'autres questions. Oui, il y a encore une question. Merci pour encore une question. Il est 9h30, on peut peut-être encore avoir une question.
Il me semble que l'intérêt de Madame Amir, c'est justement de nous montrer que dans l'islam, il y a un courant qui est peut-être marginal et qui a fait aussi des martyrs, encore en Égypte, une mosquée soufie a été supprimée, enfin avec tous ses habitants, tous ses priants à l'intérieur, il y a un an, il me semble, ou un ou deux ans. Donc l'intérêt, c'est de nous montrer que ce courant existe et rejoint quand même, et nous rejoint, nous, les chrétiens, les catholiques, quelque part, voilà, en profondeur. Moi, ma question, elle porterait sur monsieur le rabbin, pour vous, vous dites que Jésus est un... Non, que le prophète, chez vous, est un fils de Dieu. Alors, quelle différence y a-t-il entre nous, notre conception de fils de Dieu et peut-être celle du Père de l'Angeau?
C'est-à-dire, dans les psaumes, chez les prophètes, le Messie, celui qui est oint, est appelé fils de Dieu, Ben Elohim. Mais c'est une expression pour désigner le lien intime de celui qui est consacré à Dieu. nous, enfin, ce qui est dit des versets est entendu dans un sens métaphorique, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous, nous recevons la vie. C'est-à-dire de deux choses l'une, ou bien on est dans une conception athée, c'est-à-dire le monde est le produit du hasard et de la nécessité, et nous sommes le commencement et la fin de toute chose, ça c'est la conception athée, ou bien nous disons que la vie, elle vient d'ailleurs. Donc si la vie vient d'ailleurs, elle vient de celui qui donne la vie, et nous, nous sommes les réceptacles, les récipiendaires de la vie. Donc, on peut dire, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Alors, Jésus dit lui-même, heureux les bâtisseurs de paix, vous serez appelés les fils ou les enfants de Dieu. Donc, vous voyez, même Jésus dit que cette expression signifie celui qui agit dans la paix, dans le bien. Voilà. Donc, déjà, dans les textes, nous voyons que le roi, mais en fait, toute créature, est, vous voyez, donc on le comprend de façon très générale. C'est, nous ne vivons que parce que Dieu nous donne la vie. Voilà. Donc, on peut dire...
Merci beaucoup. Lui. Encore une question, je crois, monsieur...
Oui, madame, je veux... Oui, c'était... Oui, je me demandais si dans la tradition soufisme, on dit que Jésus est mort sur la croix.
Alors, dans la tradition soufie n'est rien d'autre que la tradition musulmane. Donc, on ne dit pas que Jésus est mort sur la croix, mais qu'un sosie lui a été substitué. Alors, je vais faire rapide. Voilà.
Effectivement, je savais ça.
Est-ce que... Encore une question ?
Alors, justement... Pour revenir à Jésus dans le christianisme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Les trois sont également Dieu.
Attends, on ne vous entend pas bien.
Ah. Oui. Jésus dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Les trois sont également Dieu. Et j'ai difficulté à comprendre la mort de Jésus.
La mort.
Ben, oui, il a quand même été, il a ressuscité, mais il y a eu quand même auparavant.
Donc ça, c'est vraiment une différence entre le Jésus chrétien et le Jésus du Coran, hein, et c'est intéressant de repérer ça. Donc pour le Coran, donc Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, hein, je ne me trompe pas. Pour les chrétiens, justement, c'est vraiment le cœur même. Jésus est vraiment mort sur la croix. Vous voyez.
Il est mort sur la croix.
Et donc il est ressuscité. Pour un chrétien.
Sa mort que je ne comprends pas.
Oui, il est mort parce qu'il a été, exécuté par les Romains. Oui. Alors, mais je comprends que je vais, si vous voulez, dans la Bible, le fait, cette mort sur la croix, Jésus suspendu au gibet, il faut voir à quel point cette mort était une mort horrible, hein, oui. Est un signe de malédiction. Donc l'idée, c'était de dire, puisque Jésus a été ainsi exécuté par les Romains, il n'est pas un vrai prophète, hein, car Dieu n'abandonnerait pas son ami. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est dans l'Évangile, on voit bien que les disciples abandonnent, il reste simplement Marie, et puis quelques femmes, et puis Saint Jean au pied de la croix. Et donc, ça apparaît comme le fait que Jésus soit mort sur la croix apparaît comme vraiment la preuve qu'il est un faussaire, quoi, qu'il est venu au contraire. Bon. Et c'est pour ça que la résurrection est comme une accréditation de la part de Dieu que Jésus est bien le Messie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, alors je vais vous dire à titre personnel, pour un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que pour nous, pour moi, enfin, je vieillis, un jour je mourrai, je vis avec le Christ, je meurs avec le Christ. Je ne crois pas, personnellement, il est très important pour moi, comme croyant dans ma vie spirituelle personnelle, de croire que Dieu est venu habiter non seulement mon humanité, mais comme disait un de mes professeurs, ce n'est pas une théologie du porte-avions, quoi. Jésus n'est pas venu puis reparti comme ça. Il a habité les souffrances humaines. Il a habité nos angoisses face à la mort. Hein. Dieu, c'est ça qui est. Dieu a habité sa création abîmée par le péché. Il a pénétré jusque dans les ténèbres dans lesquelles l'homme peut être plongé. Et jusque dans notre mort, et même jusqu'au séjour des morts. Hein. Et ça, pour nous prendre avec lui, et avec lui, nous élever, nous entraîner jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, Je crois que juifs, chrétiens et musulmans, nous croyons en la résurrection, pas simplement en la survie de l'âme, en la résurrection des corps, c'est-à-dire la personne tout entière. Moi, ce n'est pas mon âme. Mon âme, pour moi, mon âme, ce n'est pas moi. Moi, c'est cette unité de corps et d'âme. C'est pour ça que s'il y a une réincarnation, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir face à la mort, hein, puisque si simplement une âme qui se réincarne, l'autre individu, ce n'est plus moi. Moi, je disparais définitivement. Et justement, juifs, chrétiens, musulmans, nous partageons cette espérance que si nous avons été créés par Dieu, c'est pour l'éternité. Hein. Et une éternité que nous espérons bien heureuse. On espère bien un jour se retrouver dans le paradis. Voyez, et c'est vraiment notre espérance commune. Et nous essayons de vivre comme des hommes, des femmes bien sur cette terre pour nous retrouver un jour en Dieu, avec Dieu. Mais moi, comme chrétien, je crois que Dieu, que dans la personne de Jésus, Dieu est venu nous rejoindre et que c'est avec lui, en lui, en prenant par la main, que je serai, je l'espère, j'ose pas dire Inch'Allah, hein, mais enfin, quand je l'espère, être un jour ainsi avec Dieu.
Voilà une belle conclusion. Enfin, je sais pas, on a largement passé l'heure, il faut peut-être savoir s'arrêter maintenant.